France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, le goût pour la provocation et le double Gainsbourg qu'il s'était inventé dans les années 1980 aurait au fait de réduire l'envergure artistique de Serge Gainsbourg. Le musicien a en effet su anticiper les modes, deviner les tendances et sans cesse se renouveler, ne composant jamais deux fois le même album. L'œuvre considérable de Serge Gainsbourg, Sébastien Merlet et ses complices ont pris le parti de la suivre. En cours d'élaboration dans les studios, de suivre les artistes à l'œuvre à Paris, à Londres et ou en Jamaïque. C'est un passionnant voyage de l'autre côté des micros que nous invite ce passionnant travail. Le Gainsbourg en studio avec Serge Gainsbourg aux éditions Segers, avec Sébastien Merlet et Jérémy Spierglas.
Tant que t'auras ma belle de chouettes avantages, t'auras des amants, t'auras du succès, t'auras des vacances sur les beaux rivages et des bikinis à tout faire craquer. T'auras des visons, t'auras des bagnoles, des types bien sapés te feront du baise-main. Tu feras des sourires, tu joueras ton rôle, mais tu ne seras jamais qu'une petite putain. Putain des trottoirs, putain des palaces, pour les mecs dans le fond c'est le même tabac. On lui paye son prix, on s'en débarrasse, faut qu'elle fasse l'amour et pas d'embarras. D'ailleurs un beau jour ma batte petite môme, faudra que tu te décides à passer la main. Alors en chialant tu te diras que ma pomme, elle a fait du bon en tant qu'écrivain. C'est tout ce que t'auras, mes vers à la gomme, ma littérature dont tu t'es foutu. C'est tout ce que t'auras pour te rappeler les hommes, tes anciens mordus qui te regarderont plus. C'est le seul miroir où tu ne seras pas moche, il est garanti pour l'éternité. Le vieux père Ronsard n'était pas une cloche quand il disait ça à sa mijaurée. À sa mijaurée.
Serge Gainsbourg et Serge Barthélémy, c'était Ronsard 58, extrait de l'album Du Chant à la Une, paru en 1958. Bonjour Sébastien Merlet.
Bonjour.
Bonjour Jérémy Spierglas.
Bonjour.
Donc vous êtes les deux des auteurs de ce passionnant livre, plus de 440 pages, je l'ai dit, qui vient de paraître chez Segers, format carré, presque 30 cm, presque le format d'un disque vinyle. Des années de travail, on imagine, Sébastien Merlet, quand on voit la mine que représente ce livre, des dates d'enregistrement, le nom de tous les musiciens qui apparaissent, une fiche technique pour chacune des prises, c'est des années et des années. Alors, de travail, je suppose.
Deux ans de travail à temps plein, ouais. À Troyes, à Paris, plus une personne qui a mené l'enquête et qui a mené les entretiens à Londres pour nous, Andy Vautel. Mais c'est surtout 25 ans de passion avant ça.
Oui, on comprend qu'on n'établit pas un tel travail en un temps record. Alors, quel était l'objet, parce que c'est vraiment unique de ce livre, c'est pas du tout une biographie, enfin, ça retrace quand même une biographie à travers l'œuvre, j'ai envie de dire, mais l'objet, c'était quand même de voir, d'entendre, de suivre Gainsbourg et ses musiciens qui enfin sortent de l'ombre au travail, c'est
alors,
ça ?
Plus qu'une biographie de Gainsbourg, je dirais que c'est une biographie de l'œuvre de Gainsbourg.
C'est ça, voilà.
C'est un peu ça. D'accord. L'idée.
Ouais.
C'est Gainsbourg par le prisme de son travail, voilà, mm-hmm. Tout simplement. Donc, il y a un portrait de lui qui en ressort. Hein,
bien sûr, oui, inévitablement. Oui.
Mais l'aspect biographique classique, c'est-à-dire tout ce qui, chez Gainsbourg, s'apparente au scandale, les femmes, etc., n'apparaît pas du tout dans le livre ou n'apparaît que quand ça nourrit l'œuvre.
Bien sûr, oui.
C'est pertinent, quoi.
Oui, Jérémy Spierglas. Alors, comment vous êtes réparti le travail? Est-ce que c'est un travail collectif où chacun avait reçu une tâche bien particulière?
C'est un travail collectif, ouais. Indéniablement. Donc, j'ai déjà expliqué tout à l'heure le rôle d'Andy Vautel à Londres. Pour ce qui est des trois autres auteurs, c'est-à-dire Jérémy, qui est en face de moi, dans ce studio, Christophe Jeudin et moi-même, disons que chacun a un peu son domaine d'activité entre guillemets par rapport à ses goûts propre et puis ses compétences. En ce qui me concerne, on va dire que je me suis pas mal occupé de la partie jazz. Christophe s'est énormément occupé de la partie pop et sur toute la période américaine, très, très, très pertinent.
D'accord.
Quant à Jérémy, c'est un peu notre spécialiste musique classique. Voilà, d'accord. Un domaine que ni Christophe ni moi ne maîtrisions.
D'accord, on va venir assez rapidement, Jérémy Spierglas. Sébastien Merlet, donc, ce qu'on vient d'entendre, Ronsard 58, ceux qui connaissent l'œuvre de Gainsbourg, on dit, tiens, c'est un peu bizarre, je connais pas cette version, et pour cause.
Ça fait partie d'un enregistrement qui a été réalisé en février 58 au studio Blanqui. Et c'est une maquette. En fait, c'est la maquette grâce à laquelle Gainsbourg est rentré chez Philips. Mmh. Le but de cette maquette était de convaincre Jacques Canetti de la pertinence de signer Gainsbourg.
D'accord.
Et Canetti était assez réticent au départ, et puis il s'est laissé convaincre par son assistant Bourgeois, Denis Bourgeois.
D'accord. Et réticent, c'est pourquoi?
Non, je dirais, c'était pas forcément une réticence, mais il n'était pas très convaincu, quoi.
D'accord,
voilà, ça lui parlait pas énormément. Ouais. Il n'était pas convaincu à la base.
Et donc c'est le premier disque de Gainsbourg, du chant à la une, qui part en 58, c'est ça,
voilà,
sur un 25 cm.
C'est ça, qui est enregistré quelques mois plus tard, toujours à Blanqui, avec en compagnie d'Alain Gorager et de ses musiciens, et qui sort à la rentrée 58.
Et Gainsbourg le dit, enfin dans votre livre, que à cette époque, c'est Vian qui l'a vraiment beaucoup marqué.
C'est probablement le premier, la première référence, oui, en termes de chansons chez Gainsbourg. Avant Vian, je crois que la chanson pour lui, c'était quelque chose d'étranger à son univers.
Il se destinait à l'origine à la peinture.
Absolument.
Ouais.
Ma performance, c'est de faire une chose que je pense n'avoir pas fait depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire de toucher au piano classique. Et je vais essayer de pas trop massacrer la valse de l'adieu de Chopin.
Valse 69, numéro 1, dite de l'adieu de Frédéric Chopin, sous les doigts de Serge Gainsbourg. Jérémy Spierglas, alors, quelle était la formation classique de Serge Gainsbourg?
Alors, la formation classique, elle est d'abord celle du père, c'est-à-dire que le père était lui-même pianiste classique, formé en Russie d'ailleurs, pendant sa jeunesse.
Ouais.
Et donc, c'est le père qui a donné des cours de piano à ses trois enfants, y compris Lucien à l'époque, il s'appelait pas ça.
Oui, il s'appelle effectivement Lucien Gainsbourg. Oui.
Et apparemment, c'était une des cours de piano qui pouvait déclencher quelques crises. Bon, parfois, je crois que c'était les crises étaient partagées entre le père et le fils. Mais
ouais.
C'est une question. Mais voilà, le bagage est là. Le père faisait travailler Bach, Mozart et Chopin évidemment, et plein de choses. Et il était passionné de musique contemporaine à l'époque, puisque c'était Debussy, Ravel, des choses qui se faisaient à l'époque, à l'époque même. Même avant d'arriver en France, le père Gainsbourg était passionné de musique française.
Ouais. Donc oui, en fait, c'est un couple russe qui s'est installé à Paris, c'est ça hein.
Voilà, qui a fui la révolution, la construction aussi pendant la guerre civile.
Et donc Serge Gainsbourg est né à Paris.
Il est né à Paris.
C'est ça, oui.
Exactement.
Et donc, formation classique, avez-vous dit, Jérémy Spierglass, le piano, les classiques de base, j'ai envie de dire. Mmh. Et il a travaillé aussi la guitare.
Il a travaillé alors pour lui-même.
Pour lui-même,
plutôt en autodidacte. Ouais. Mais ensuite, il aimait beaucoup jouer, apparemment. Et même après, ses premiers engagements, c'est plus à la guitare qu'au piano. Quand on parle de formation classique, il a aussi une formation d'écriture et de choses comme ça, parce qu'à l'époque, pour rentrer à la SACEM, il fallait passer un examen. Et un examen d'écriture, il fallait écrire une chanson.
Oui,
il a pris des cours à quelqu'un qui s'appelait Julien Falck. Mm-hmm. Et donc là, il a vraiment assis sa formation classique.
Ouais. Donc on peut dire qu'il avait un vrai bagage technique solide. Ouais.
Voilà, alors ensuite... C'était pas, ça lui permettait pas d'écrire une symphonie. C'est pour ça dire qu'il s'entourait d'arrangeurs, etc., etc. Mais il savait très très bien ce qu'il faisait.
C'est sûr.
Il savait ce qu'il ne voulait pas surtout.
Ouais.
Et il savait faire ses choix et bien s'entourer. Et moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est sa langue maternelle, le classique. Le classique et ça couvre vraiment du baroque jusqu'au contemporain.
Mais oui, voilà.
C'est sa langue maternelle, c'est-à-dire que c'est des choses qui vont réapparaître constamment dans son œuvre. Et c'est intéressant d'écouter d'ailleurs cette valse de l'adieu parce qu'elle nous a permis, par le style de Gainsbourg, de le retrouver au piano dans d'autres pièces enregistrées, dans des bandes originales par exemple. On ne savait pas qui était le pianiste.
Et par recoupement, vous avez retrouvé que c'est par le jeu, le toucher.
Par le jeu, c'est vraiment. Et puis il y a aussi beaucoup de choses ici qui sont intéressantes, c'est que il y a ce que j'appelle des pianismes ou même des chopinistes, c'est-à-dire des expressions toutes faites, des expressions musicales toutes faites qui reviennent dans ses chansons qu'on entend vraiment vraiment beaucoup. Quand on y prête attention, c'est assez amusant.
Jane Birkin, interprétée de Serge Gainsbourg, Jane B, sur une musique de Chopin, très exactement, le quatrième de ses préludes. Sébastien Merlet, Jérémy Spireglas faisaient allusion à la culture classique, et au même aux tournures, là c'est clairement un emprunt, mais qui est cité, hein, le prélude de Chopin. Comment est-ce que, au cours de sa carrière, Gainsbourg va... à chaque fois découvrir, parce qu'il part donc d'une formation classique, j'ai dit en introduction qu'on a l'impression qu'il sentait, il anticipait les modes à chaque fois. Comment est-ce qu'il y parvenait?
Moi j'ai une autre vision de ça, je dirais que plutôt que de les anticiper, il les sentait quoi. Il les sentait vraiment au moment précis où ça démarrait. Ouais. Il y a des trucs assez troublants, par exemple la bossa nova. Ouais. Son engouement pour la bossa nova qui est arrivé vraiment en 62. On a tendance à penser aujourd'hui, en réécoutant le quatrième 25 cm de Gainsbourg, des chansons comme Les Cigarillos, c'est numéro 4,
d'accord. S'appelle.
Ouais. Il y a des chansons comme Les Cigarillos, mais je pense surtout à Baudelaire. Mm-hmm. On imagine, comme c'est sorti en 62, on imagine qu'il y a derrière l'influence de l'album de Stan Getz, le fameux, quoi. Bossa Nova, vraiment le disque qui a ouvert Bossa Nova au monde.
Au grand public,
et en fait, non. En fait, Gainsbourg vient subtilement avant. Mmh. Je pense que c'est pas mal lié aux antennes d'Alain Goraguer aussi, qui était quelqu'un de très curieux, qui était très très intéressé par les musiques caraïbes et sud-américaines. Et quant à Gainsbourg, je crois qu'il sentait vraiment les choses au moment où elles arrivaient. Voilà. Et puis après, il savait s'entourer. Ça, c'était sa grande force.
L-A-E dans la T-I-T-I-A. L-A-E dans la T-I-T-I-A. Sur ma Remington portative, j'écris ton nom Laetitia. L-A-E dans la T-I-T-I-A. Laetitia, les jours qui se suivent, hélas, ne se ressemblent pas. L-A-E dans la T-I-T-I-A. C'est ma douleur que je cultive en frappant ces huit lettres-là. L-A-E dans la T-I-T-I-A. C'est une fleur bien maladive, je la touche du bout des doigts. L-A-E dans la T-I-T-I-A. S'il faut aller à la dérive, je veux bien y aller pour toi. L-A E dans la T-I-T-I-A. Ma raison en définitive se perd dans ces huit lettres-là. L-A-E dans la T-I-T-I-A. Sur ma Remington portative, j'écris ton nom Laetitia. L-A-E dans la T-I-T-I-A. L-A-E dans la T-I-T-I-A.
Serge Gainsbourg, accompagné à la guitare par Elek Bakchik et à la contrebasse par Michel Gaudry. Cet extrait de l'album Confidentiel qui part en 1963, Sébastien Merlet. La évolution par rapport à Ronsard 58, du chant à la une, en quelques années.
C'est probablement le disque le plus radicalement jazz de Gainsbourg, ouais. Confidentiel. Alors, on a appris malheureusement le décès assez récemment de Gaudry, contrebassiste, qu'on avait eu le temps d'interroger au début de notre enquête, il y a 2 ans. Et maintenant, donc, il n'y a plus de témoins sur ces séances. C'est terminé. Mmh. Tout le monde est disparu.
Parce que le guitariste qu'on entend, qui est assez formidable, était un Hongrois.
Absolument, Elek Bakchik, qui est à la base violoniste de formation. Qui est arrivé en France en février 59 et qui s'est fait repérer instantanément par Art Simons. Ouais. Il a intégré le monde du jazz et des cabarets dès son arrivée à Paris, et Gainsbourg l'avait repéré dans le trio d'Art Simons. Il faut savoir que Gainsbourg fréquentait assidûment les clubs de jazz, et notamment le Mars Club, où le trio d'Art Simons était résident. Et c'est comme ça qu'il a découvert Bakchik et Gaudry, qui jouaient ensemble déjà dans le trio d'Art Simons. Et un soir, il leur a demandé s'ils étaient d'accord pour l'accompagner pour les séances de l'album.
Et alors, comment est-ce que Gainsbourg repérait justement à la fois les musiciens, par leur talent, mais aussi leur style. Ils savaient à chaque fois vers quel genre ils voulaient évoluer. Donc après cet album Confidentiel 63, il y aura Percussion, puis il y en aura d'autres. Après, il y aura Melody Nelson. Donc tous ces les musiciens arrangeurs comme Goraguer ou Vanier, ou même les Anglais avec qui il travaillera dans les années 70, puis après la Jamaïque. Comment est-ce qu'il les trouvait? C'était lui ou il y avait une équipe autour de lui? Comment ça se passait, Sébastien Merlet?
Il avait souvent un directeur artistique, ouais, qui effectivement était souvent d'ailleurs à l'origine effectivement des rencontres musicales. Il faut savoir que pour revenir à Confidentiel, ouais, c'est un des rares albums où Gainsbourg est vraiment au contact direct des musiciens. Généralement, il passe par son orchestrateur, arrangeur. D'accord. D'abord Goraguer, ensuite Colombier, pour les Français, oui, Vanier, Sabar. Puis pour les Anglais, il y en a eu quelques-uns aussi qui se sont succédés sur cette même période. Voilà, c'était souvent effectivement des propositions de ces directeurs artistiques successifs. Mmh. Voilà. Après, il y a aussi, par exemple, pour le cas précis de Percussion, il y a eu un déclencheur qui a été très important, c'est la découverte d'un disque que justement lui avait fait écouter son directeur artistique, qui est un disque du percussionniste nigérian Babatunde Olatunji, où en fait Gainsbourg a trouvé tout de suite matière à faire un véritable travail de collage de sa prose, enfin de sa prose, de ses vers plus exactement, sur les instrumentaux de Olatunji, qu'il a littéralement décalqué. Pour le coup, là, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a trois morceaux de l'album de Olatunji qu'on retrouve vraiment instrumentalement à l'identique sur l'album Gainsbourg Percussion. Mmh. Voilà.
Jérémy Spreglas, qu'est-ce que vous diriez justement sur cette évolution musicale de Gainsbourg à partir des années donc 58 avec cet album du Chant à la Une qu'on a entendu en ouverture, et puis jusqu'aux années 70, même 80 après, avec un son vraiment très américain, années 80, très, très funky. Est-ce que c'est un parcours vraiment atypique pour un musicien français d'avoir un tel panorama quand même?
Ah oui, c'est tout à fait atypique, ça c'est certain. Je pense qu'il était très curieux, il avait envie d'aller voir ce qui se passait ailleurs et voir ce qu'il pouvait en faire, surtout voir en fait c'était vraiment à chaque fois qu'il avait quelque chose, il le mettait dans sa boîte à outils et il pouvait le ressortir ensuite, c'est-à-dire, ouais, qu'on retrouve des éléments jazz très digérés dans les derniers albums, etc. C'est des choses qui restent là. Mais il avait, alors je dirais pas qu'il avait jamais envie de faire deux fois la même chose, parce que souvent il faisait parfois deux fois la même chose, ou en tout cas il essayait de reproduire certaines fois. Il a fait deux albums reggae, il a fait deux albums à New York, mais il voulait toujours aller plus loin, plus approfondir les choses. Et puis il y avait un moment, ça pouvait être tout simplement des faits humains, c'est-à-dire des gens avec lesquels il n'avait plus envie de travailler, ou avec qui il n'avait plus envie de travailler avec lui, soit tout simplement parce qu'il avait le sentiment d'être allé au bout du sujet. Là, je crois que sur Confidentiel, on peut dire c'est ce qu'il dit lui-même, dire je veux aller au bout du jazz, et c'est ce qu'il fait. Il fait un disque complètement jazz, et ensuite il passe à autre chose. Vraiment, il va approfondir aussi très très fort là-dessus. Je pense que c'est quelqu'un qui restait toujours en mouvement, en fait. C'est surtout ça la question, qui ne se satisfaisait jamais de rester au même endroit, de rester à faire la même chose. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, moi, c'est comme ça que j'interprète d'ailleurs ces doublons, parfois. Alors, il y a des doublons qui sont, en fait, tout bêtement, essayer de reproduire un succès commercial. Ouais. Mais pour moi, par exemple, les deux albums reggae, le premier, c'est une rencontre avec le reggae. Et le deuxième, c'est, bon, maintenant, je sais, c'est ça, je connais, je vais aller voir ce que je peux faire, et pour le mener vraiment à bout. C'est vraiment quelque chose comme ça, d'approfondir le sujet à chaque fois.
Ça. Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Elle avait de l'amour pour vous. Elle en avait des tonnes, mais ses jours étaient comptés, 14 automnes et 15 étés. Mélodie Nelson. Une adorable
précieux enfant que je n'ai connu qu'un instant.
Extrait du célèbre album Melody Nelson de 1970, c'était la ballade de Melody de Serge Gainsbourg, bien sûr, arrangement de Jean-Claude Vanier. Sébastien Merlet, Jérémy Spierglas nous parlait de la volonté parfois de Serge Gainsbourg de recaser certaines musiques. On a aussi l'image d'un Gainsbourg qui travaille au dernier moment, genre qui écrit dans l'avion qui va le mener, je sais pas, peut-être à Londres. Est-ce que c'est réel ou c'est une légende ou il y a un mélange des deux?
C'est intéressant d'évoquer ça juste après avoir écouté un extrait de l'album Histoire de Melody Nelson, parce que Histoire de Melody Nelson est un album qui a été très 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 préparé, qui a eu le temps de mûrir pendant près de 2 ans.
Ah oui. C'est un de ceux sur lequel il a le plus travaillé peut-être, non?
Plus travaillé peut-être pas, mais en tout cas il l'a mûri.
Ouais,
voilà, c'est-à-dire que les playbacks se sont enregistrés en 70 et les textes ne sont arrivés quasiment qu'un an après. Et je sais pas, est-ce qu'il était peut-être un peu tétanisé face à l'ampleur, parce que le playback est juste incroyable quand même. C'est vrai qu'il avait mis la barre très haut sur cet album-là. L'homme à tête de chou, c'est tout à fait la même chose aussi. Enfin, même si ça a duré un peu moins longtemps, il a énormément travaillé les textes. Et puis, effectivement, on parlait, tout à l'heure, Jérémy parlait des albums reggae. Les deux albums reggae, c'est deux approches totalement différentes. Le premier est fait totalement spontanément. C'est aux armées, etc.
C'est ça, voilà.
En 1979. Hein, où, en gros, le disque se prépare en 3 mois. C'est Philippe Le Richaume, le dernier le directeur artistique de Gainsbourg, qui a pris les contacts, qui a réservé les studios à Kingston. Et tout s'est fait dans l'urgence la plus totale. Gainsbourg est parti là-bas avec des amorces de textes qu'il a terminé sur place la nuit, la veille des prises voix. C'est incroyable, on explique tout ça dans le livre, mais c'est sidérant de voir comment il termine la veille. Et il dort pas pendant près de 20 heures, il enchaîne avec les prises voix, et le soir l'album est fini. L'album est enregistré alors que la veille à la même heure, il n'y avait pas les textes. Ouais. C'est complètement sidérant. Ouais. Et puis à côté de ça, le deuxième album reggae, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, Gainsbourg, très content du succès évidemment colossal de Deux Armes, etc., décide de refaire un album avec Sly Dunbar et Robbie Shakespeare, les deux musiciens rythmiciens jamaïcains. Et là, pour le coup, les séances ont lieu non plus à Kingston, mais à Nassau, aux Bahamas. Et là, pour le coup, Gainsbourg a énormément travaillé les textes, vraiment énormément.
Très bien, merci beaucoup. Et puis pour en savoir davantage, je conseille évidemment la lecture de ce livre absolument passionnant, très épais et très instructif, le Gainsbourg en studio avec Serge Gainsbourg qui vient de paraître chez Segers. Merci à mes invités Sébastien Merlet et Jérémy Spierglas. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, la technique Claire Levasseur, attachée de production Annick Aumier. Changement de répertoire la semaine prochaine puisque nous serons à l'Opéra de Paris en compagnie de Romain Fest pour parler du grand opéra à l'occasion d'une exposition qui se tient à la bibliothèque musée du Palais Garnier. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.